Pendant une quarantaine de minutes, on est en compagnie de Marion Brunet, lauréate du prix Ado en colère 2015 pour son livre Frangine. J'étais accompagné pour ce plateau jeunesse de la libellule Magenta et d'Alix Laguêpe de l'émission L'Arbre à Palabre que vous pouvez entendre chaque samedi à 16h sur le 99.9. Quatorzième édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, et spécial plateau jeunesse, et on a le plaisir, et l'immense plaisir d'ailleurs, d'accueillir Marion Brunet. Bonjour Marion.
Bonjour.
Avec moi donc pour animer cette rencontre, eh bien, il y aura la libellule Magenta et Alix Laguêpe.
Bonjour.
Alors, on va commencer par faire vite fait une petite présentation sommaire. Donc Frangine, c'est votre premier livre.
Oui.
Issu donc de la collection Exprime aux éditions Sarbacane. Depuis sont parus L'Ogre au pull vert moutarde ainsi que L'Ogre au pull rose griotte où on suit les aventures de Abdou et Johan. Livre tous deux en collaboration avec Thil Charrier d'ailleurs pour des illustrations. Et puis Gueule d'amour, un thriller d'aventure qui se déroule en Madagascar.
La gueule du loup.
La gueule du loup. Ouh là là, j'ai fait un petit lapsus. La gueule du loup, donc un thriller d'aventure qui se déroule à Madagascar où deux amis sont confrontés au cauchemar de l'enfance et au danger du monde adulte. C'est bien ça ? Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Ça commence bien, je le suis déjà.
Si, le cauchemar du monde adulte, si, c'est pas mal, mais bon.
Bon. Alors, par contre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque vous êtes la lauréate du prix Ado en colère 2015, c'est Frangine. Donc, pour faire le pitch rapidement, un garçon, Joachim, sa sœur, Pauline, ils sont venus au monde par PMA, procréation médicalement assistée. Action d'ailleurs qui a été longtemps interdite en France. Ils vivent donc tous deux dans une famille homoparentale avec leur mère Julie et sa compagne Maline et un père biologique inconnu. C'est avec son entrée au lycée que tout va basculer pour Pauline et notamment lorsqu'elle rédige la fiche de renseignement familial obligatoire à chaque début d'année scolaire. Les autres élèves apprennent qu'elle est élevée par deux femmes. Commence alors pour Pauline un véritable calvaire psychologique. Elle va devoir affronter le monde cruel du lycée. Et victime de harcèlement. On suit l'histoire donc au travers des mots et du regard du grand frère qui va s'apercevoir après quelques temps que sa sœur ne va pas bien du tout. Pourquoi avoir choisi le procédé narratif par la voix de Joachim qui se fait le porte-parole du ressenti des voix féminines dans le roman ?
Moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça décalait un petit peu. Je pense que si Pauline avait été la narratrice, on aurait été vraiment focalisé sur la souffrance et le harcèlement. Moi ça m'intéressait ce décalage du témoin qui est un petit peu dedans et un petit peu dehors.
Chose intéressante également dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de journal intime pour Pauline, pas de conversation non plus ni confidence sur Internet et téléphone portable. Pourquoi ce choix d'avoir ignoré toutes ces nouvelles technologies ?
Alors j'ai un peu honte, mais en grande partie parce que c'est des outils que je connais extrêmement mal. Donc ça ne m'est pas venu naturellement. Il aurait effectivement fallu que je fasse des recherches et que je me mette vraiment le nez dedans pour arriver à être juste si j'utilisais ces outils-là dans le roman. Et ça ne m'est pas venu. Mais c'est quelque chose qui est sorti très dernièrement. En fait, les ados m'en ont très peu parlé. Et c'est à Arras, la dernière fois, quand je suis venue pour les rencontres autour du prix Ado en colère, que cette question a émergé. Et je n'avais même pas réalisé que j'avais un peu fait l'impasse justement sur tout ça.
Alix, peut-être tu as une question ? Première question ?
Oui, déjà, est-ce que ce livre raconte un peu votre histoire ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Non.
Ah, du coup, ce personnage féminin, c'est pas du tout vous, ce personnage masculin non plus ?
Alors, moi je pense que dans les personnages, on met toujours, enfin en tout cas moi, je mets toujours un petit peu de moi, mais c'est pas moi. C'est-à-dire, voilà, quand je vais décrire une émotion, un sentiment que ressent le personnage, forcément, je vais faire appel à ce que moi, je connais de ce ressenti ou de cette émotion. Mais je ne suis aucun des personnages. Alors, je suis peut-être un petit peu plus Joachim parce que je lui ai donné ma voix, ou il m'a donné la sienne. Mais vu que c'est lui le narrateur, forcément, il y a un petit peu de moi dans la façon de parler, dans des choses comme ça. Ouais.
Et dans ces cas-là, si ce n'est pas votre histoire que vous racontez, pourquoi ce combat-ci et pas un autre pour un premier livre ?
Pourquoi ? C'est assez compliqué de définir le pourquoi du début d'une histoire. Ça vient un petit peu je vais pas dire que c'est magique, mais c'est pas toujours évident d'aller en trouver la source, en tout cas. Le harcèlement, c'est quelque chose auquel j'étais assez sensible parce que toute l'année qui a précédé l'écriture de Frangine, J'ai bossé beaucoup en atelier d'écriture dans les collèges autour du thème du bouc émissaire avec une compagnie théâtrale. Et du coup, je faisais écrire des ados sur ce thème-là, et je me suis rendu compte que le harcèlement était quelque chose d'extrêmement présent et de vraiment terrible. Donc je baignais beaucoup là-dedans. Donc au départ, j'ai envie de dire que l'idée première, c'était plus le harcèlement que l'homoparentalité. Et j'ai trouvé ça intéressant de creuser la question de l'homoparentalité aussi parce qu'elle l'avait très peu été. Et je trouve que c'est un peu notre boulot des fois d'aller défricher les terrains qui l'ont pas été.
J'imagine que vous savez que la vie de collégien et la vie de lycéen est extrêmement différente. Alors pourquoi avoir choisi les lycéens si vous aviez des contacts avec les collégiens ?
Alors là, je vais être obligée d'avouer... Pour moi, au départ, Frangine se passe au collège. Parce que je pense que c'est au collège que ce genre de mésaventure arrive plus encore qu'au lycée. Parce que le collège, c'est une période où tout doit être très calibré. Alors que je trouve que quand on passe au lycée, ça se détend un peu. Enfin, voilà, c'est un peu moins angoissant, ce côté formatage, quoi. Et j'ai un petit peu triché en les mettant au lycée parce que j'avais besoin qu'ils soient un peu plus mûrs que ce qu'on est au collège. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite feinte. Et puis, je me suis dit qu'il y aurait des lecteurs collégiens qui pourraient aussi s'identifier, parce qu'on aime bien aussi des fois s'identifier à des personnages un peu plus âgés. Et ça permet aussi de trouver des solutions, même quand on est plus jeune. Mais effectivement, moi, je trouvais que j'avais envie que la voix de Joachim soit pas une voix trop enfantine. Donc, du coup, troisième, il était un peu jeune, sans parler de Pauline, qui, pour le coup, aurait été carrément en sixième. Ça faisait vraiment, vraiment petit. Et du coup, j'ai situé ça au lycée.
Magenta, une question ?
Je me suis demandé de qui vous étiez inspiré pour le personnage de Pauline.
Alors pour le coup, je l'ai vraiment inventé, le personnage de Pauline.
Personne de vos proches ?
Non.
Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où Joachim... Enfin moi, il m'est apparu un petit peu dans ce bouquin très parfait. Et du coup, on peut se demander s'il n'est pas un peu trop lisse, il ne fait pas de bêtises, c'est des ados quand même, on ne s'y vibre pas beaucoup...
Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il fait quand même pas beaucoup de conneries. Non,
bon, ça existe hein, quand même.
Des ados
qui sont sages. Hein,
ouais, puis j'avais aussi envie d'un personnage positif, sympathique, qui soit pas forcément. Qui pose pas forcément problème.
Pour revenir encore sur Joachim, hein, ce roman porte aussi sur la question de comment réagir alors que les sévices subis par Pauline sont uniquement verbaux. Pas d'atteinte physique. Joachim découvre que l'aide qu'il peut apporter à sa sœur n'est pas sans risque, parce qu'il est plutôt partisan, lui, peut-être c'est sa seule bêtise, d'utiliser la violence. Est-ce que la solution pour venir en aide à sa sœur aurait été différente de celle qui se serait appliquée à lui-même ?
Sincèrement, en plus, c'est pas un bouquin pour moi qui donne des solutions, c'est vraiment qui ouvre des questions, mais j'avais pas dans l'idée de donner des solutions pour régler la question du harcèlement. Finalement, la seule façon dont les choses elles peuvent se régler, c'est surtout quand on est soutenu et aimé, comme ils le sont tous les deux par leurs parents. Et entre eux, enfin, voilà, c'est ce qui fait qu'ils sont une famille, et c'est ça qui sauve. C'est-à-dire qu'après, chacun va trouver ses solutions dans ce type de situation, mais que les liens et le soutien aident à ça, quoi. Mais j'ai pas non plus les solutions et je pense pas les donner dans le roman. En tout cas, j'ai pas cette prétention-là, quoi.
Oui, on parlait justement de Joachim, personnage lisse. Moi, il y a une scène qui m'a marquée, justement, peut-être parce que pour moi, j'ai pas vraiment compris son utilité. Désolée.
Pas de problème.
C'est cette scène entre Blandine et Joachim face à un Bergman. Pourquoi Bergman ? Et pourquoi une scène comme ça en plein milieu du livre ? Face à un Bergman, il regarde un Bergman.
Ah, au film.
Le film. Oui,
film. Ah, pardon, j'avais pas compris.
Désolée.
Parce qu'il regarde. Je comprends pas en fait. Parce
enfin, que... la question porte pas sur le Bergman. Je dis Bergman. Justement.
En fait, c'est un Cronenberg.
C'est un Cronenberg. Oui. Pardon. Non, en tout cas, pourquoi placer des scènes comme ça entre Blandine et Joachim qui n'ont pas grand-chose à voir avec Pauline.
Mais tu parles pas de la référence cinématographique. Tu parles du fait que c'est la scène où il essaie de faire l'amour avec elle. D'accord. Alors pour moi, elles ont vachement d'intérêt, ces scènes. non, elles sont hyper importantes. Mais parce que justement, il raconte l'histoire de sa sœur et de ses deux mamans à ce moment-là, dont ce qu'elles vivent et ce qu'elles traversent. Mais lui, dans cette période-là et dans ce temps de vie à lui, sa grande aventure, c'est d'arriver à coucher avec sa copine quand même. Il a 17 ans, il est amoureux. Bon, c'est une grande aventure de la vie quand même la première fois. Donc, pour moi, ouais, c'est un peu son défi du moment à lui, au-delà de d'aider sa sœur, tout ça, c'est quand même cette son histoire d'amour avec Blandine. Donc, pour moi, ça a vraiment du sens.
Magenta.
On parle de Blandine et Joachim, et est-ce que le livre aussi dénonce-t-il d'une certaine manière l'inégalité homme-femme par rapport à la méchanceté des élèves, à la réaction de la quand ils ont appris les parents
alors, pour leurs parents. Alors, je pense que je ne l'ai même pas conscientisé quand je l'ai écrit, mais c'est une évidence, oui, effectivement, que je pense qu'on se fait bien, bien plus emmerder et harceler quand on est une fille que quand on est un garçon, ça c'est sûr. Mmh. Et qu'en plus, oui, alors peut-être qu'après, la force physique fait que c'est encore plus difficile de se défendre, quoi, qu'il y a des nanas costauds aussi. Mais sur le fait que les filles se fassent beaucoup plus harceler, oui, ça me paraît assez évident.
Alors, dans votre roman, eh ben, au début, on y trouve une bande-son.
Oui,
alors... Donc, bah, justement, c'est le moment de faire une petite pause musicale. Et on va s'écouter donc, un titre qu'on a choisi. C'est Wax Taylor, donc Que Sera. Et puis on se retrouve après.
The delightful piece they're going to play this evening.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Your attention, please. Your attention, please. Your attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
Tell you.
Toujours sur la 14e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras. On est en compagnie de Marion Brunet, de Magenta et d'Alix pour ce plateau jeunesse autour du livre de Marion Brunet, Frangine. Alors, on va rectifier quelque chose. J'ai dit une petite bêtise. La PMA, donc la procréation médicalement assistée, j'ai dit qu'elle avait été longtemps interdite en France. Eh bien, je me suis encore planté, décidément. Elle est vraiment interdite encore aujourd'hui.
Oui.
C'est bien ça. Alors, bah, question, comment font ces femmes qui veulent avoir ce genre d'action, comment ça se passe?
Bah, elles vont à l'étranger.
Et du coup,
en fait, c'est comme l'avortement dans les années où c'était interdit. En fait, d'accord. Elles vont en Espagne et en Belgique.
Pour revenir au livre, le récit Il est entrecoupé de souvenirs plus anciens des deux enfants et de leur mère. Alors sont évoqués, hein, entre autres, le comportement homophobe d'un parent d'élève à l'école primaire vis-à-vis des deux mères, l'empathie quelque peu tendancieuse d'une enseignante de CP, bien évidemment la non-acceptation par la mère de Julie de l'homosexualité de sa fille. Les questions sur le partage de l'autorité parentale en cas de séparation des deux mères est également évoquée. Et c'est à des moments précis du roman où on en sait d'ailleurs un peu plus sur les moments délicats que la famille a déjà traversés. Comment avez-vous scénarisé tout ça ?
Ça a été un grand puzzle bordélique.
Ah, et comment alors donc c'est fait ce puzzle ?
Alors, c'est un premier roman, donc il y a eu un travail énorme qui a été fait dessus. Et là, je suis bien obligée de remercier mon super éditeur Thibaut Bérard. Qui m'a évidemment aidé à organiser tout ça et à tirer le roman encore plus loin dans certaines scènes. Il y a vraiment eu un travail énorme en amont, hein, entre la première version et le bouquin que tu as entre les mains. Vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Les flashbacks, ils étaient un petit peu... certains ont été écrits à d'autres moments. Enfin, je ne savais pas toujours à quel endroit j'allais les mettre. Ce n'était pas une évidence qu'ils soient à tel ou tel endroit. Sauf le dernier. Le dernier, je savais que le livre se terminerait sur Pauline, 2h15. Ça, c'était sûr et certain, puisque c'est la rencontre. Donc, je l'aime tout particulièrement, ce chapitre. C'est vraiment le moment où le frère et la sœur se rencontrent à l'hôpital, quoi. Enfin,
à la
maternité, après l'accouchement de la maman. Et mais pour les autres, eh ben, ça a été un petit peu réfléchi après coup, que ce soit un peu disséminé au travers de l'histoire, que ça résonne avec le chapitre d'avant ou celui d'après. Voilà.
Une question aussi que je me suis souvent posée à la lecture de ce roman. Pourquoi Pauline ne se pose pas plus de questions sur son père biologique ?
Bah ça, c'est un choix de ma part, de ne pas avoir voulu pousser sur ce terrain-là. Voilà la réflexion. Elle aurait pu aller vers ça. La souffrance aurait pu être plus de ce côté-là. Là, je traitais plus la partie sociale. C'est-à-dire que finalement, souvent, pour moi, le problème vient de l'extérieur. C'est-à-dire voilà, quand il y a suffisamment d'amour et de mots mis autour d'une situation quelle qu'elle soit, a priori, elle est moins ou pas douloureuse et c'est le regard des autres et les attaques des autres qui vont venir activer de la souffrance. C'était un peu mon parti pris. Elle l'évoque quand même avec son frère quand ils sont au bord de la rivière là, chez les grands-parents.
Justement, on y vient. Donc l'importance de cette rupture avec le monde scolaire, hein, par le biais des vacances à la campagne, c'est là qu'on sent que les liens se resserrent entre Joachim et sa sœur. Est-ce que c'était nécessaire pour la suite des événements et le dénouement de l'histoire ?
Oui, bah pour moi, oui, bien sûr. Et puis il y a aussi, pour moi, c'est un passage important parce qu'elle renoue avec quelque chose de son histoire familiale avec les grands-parents. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les parents de Maline, donc de la maman qui n'est pas sa maman biologique. Et pourtant, on sent qu'il y a un lien de passation et de soutien et d'amour qui fait vraiment sens et c'est vraiment ses grands-parents quoi et dans tout. Et c'est aussi un passage où il y a le moment où Joachim lui demande des souvenirs. Non, Joachim lui raconte des souvenirs. Voilà, où elle était trop jeune pour s'en souvenir. Et pour moi, c'est un passage très important parce qu'en fait, en renouant avec l'enfant, qu'elle a été avec son histoire familiale, ben voilà, elle prend les forces nécessaires à affronter ce qui va venir ensuite, quoi, et ce qui lui arrive dans le présent.
Changement de sujet, mais vous avez gagné le prix Ado en colère. Étiez-vous surprise quand vous avez gagné et qu'allez-vous faire avec le prix ?
J'étais super contente quand j'ai su que je l'avais. J'étais hyper fière. Bon, d'abord parce que je l'ai déjà dit, mais vraiment le prix Ado en colère, ben voilà, ça résonne, ça a du sens pour moi, la colère. Et puis aussi une grande fierté parce que tous les autres bouquins de la sélection, je les ai trouvés excellents. Je n'ai pas lu Sweet Sixteen, donc c'est en projet, je le lirai. Mais tous les autres, je les ai beaucoup aimés et je les trouve de grande qualité. Donc voilà, j'étais très très fière. Et qu'est-ce que je vais faire avec ? Eh ben, je vais vivre avec parce que bon, ben les droits d'auteur. C'est pas la panacée et que j'ai arrêté mon travail d'éducatrice spécialisée depuis le mois de septembre. Donc je vis des interventions et rencontres que je fais de mon travail de lectrice puisque je suis maintenant lectrice pour ma maison d'édition. Et un prix comme ça va me permettre de payer mon loyer et de remplir mon frigo. Voilà. Et c'est super important. Hein, c'est...
J'aurais voulu revenir aussi sur les deux mères, hein, Maline et donc Julie, le comportement aussi. Des fois, on se demande, mais comment elles peuvent passer à côté de s'apercevoir que sa propre fille ne va pas bien du tout.
Alors, elles passent pas à côté, elles s'en rendent compte quand même.
Mais
elles
ne tentent rien.
Ah si, elles essaient un petit peu. Quand, le soir où elles s'engueulent,
il y a quand même.
Non, je pense qu'elles elles essayent. D'ailleurs, on ne les voit pas en scène, en train de solliciter Pauline, mais par contre, quand elles en parlent entre elles, elles disent qu'elles sont allées la voir, qu'elles ont essayé d'eux. Moi, je pense que ça arrive plein de fois qu'un ado ou une ado arrive à cacher quelque chose qui va mal à ses parents, ou en tout cas en camoufler la gravité. Mmh. Voilà. Bon. On se dit, ouais, elle est ado, c'est pas facile, c'est normal. Et puis les parents n'ont pas forcément toujours les moyens non plus de voir la gravité d'une situation.
Il y a aussi le fait peut-être que le travail de chacune interfère également. Et est-ce que, justement, il y a aussi une rupture à un moment donné avec Maline qui va quitter son travail.
Oui. D'ailleurs, j'avais envie de rebondir là, parce que quand je parlais du prix et de ce que j'allais faire avec le prix et du fait que j'avais arrêté mon travail, j'ai évoqué le fait qu'effectivement, je suis éducatrice spécialisée depuis 13 ans, donc je ne le suis plus depuis septembre, et qu'effectivement, je me suis inspirée, pour répondre à la question d'Alix tout à l'heure, je me suis inspirée de mon ras-le-bol de mon travail pour créer le ras-le-bol du travail que Maline fait, puisque c'est le même, sauf que moi je travaillais en psychiatrie et que elle, je l'ai fait travailler dans un foyer d'accueil d'urgence. Mais mon ras-le-bol du boulot m'a bien servi pour construire le personnage.
Et en écrivant le livre, vous saviez que vous alliez arrêter votre travail après ?
Non, je savais pas si je pourrais tenir financièrement, c'était en projet, ouais, j'aurais bien aimé arrêter.
Donc c'est un peu votre personnage inspiré.
Alors le personnage, non, mais cet aspect du parcours du personnage, oui.
Pourquoi avoir mis des exemples de bande-son au début du livre ? Est-ce qu'on doit les écouter en lisant ?
Alors la bande-son, c'est une marque de fabrique de la collection. C'est la collection Exprime qui au passage propose des super textes autres que les miens, je le dis parce que vraiment c'est une collection dans laquelle je suis très fière de publier parce qu'il y a plein d'auteurs que j'adore dedans, et on est tous un peu obligés, c'est un peu la seule obligation de faire une bande son au départ. Moi je trouve que c'est une super idée. Au tout début, j'ai fait « Oh non, moi je veux pas », parce que quand on t'impose un truc, t'as envie de dire « Non, je veux pas ». Et en fait, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je pense qu'on est toute une génération, et puis dans les différentes écritures qui constituent cette collection, on est quand même très inspiré par le cinéma, par les séries. Au niveau de l'écriture, de la construction de nos romans, enfin... Voilà, et du coup la bande son, elle prend son sens complètement. C'est un mélange à la fois de musique qu'on pourrait imaginer sur le film si ça en était un, de musique qu'on écoute quand on écrit, enfin en tout cas pour moi, hein, voilà, c'est ça, et de titres qui pouvaient faire résonance avec le propos aussi.
Ouais, voilà, tout à fait.
C'est un peu de tout ça. Et c'est que des morceaux que j'aime. Mon parti pris, ça a été de mettre vraiment les musiques qui me plaisaient et pas des musiques pour les ados. Mmh. Un truc, tu vois, où tu vas mettre un peu pour aller draguer le lectorat adolescent, mettre des musiques où tu penses que ça va leur plaire. C'est que des choses qui, moi, me parlent. Donc, il y a des choses un peu ringardes, d'autres qui sont plus modernes. Il y a des choses qui sont, à mon humble avis, totalement intemporelles et qui sont vieilles mais ne vieilliront jamais. Et voilà.
Parce que, est-ce qu'il y a une volonté de découverte, du coup, pour les adolescents ? Parce que c'est pas forcément des choses que les jeunes écoutent en général.
Ah bah oui, les Pixies, Leonard Cohen, quand même.
Même Bachung, ou même Moix Taylor, qui est pas forcément connu du grand public ado.
Mais il faut.
C'est sûr.
Non, mais moi, pour moi, c'est des bonnes musiques, c'est des choses que j'aime beaucoup, donc c'est un peu comme l'écriture, c'est une passation, la musique aussi. S'il y a des ados qui, du coup, en ayant aimé le bouquin, auront la curiosité d'aller écouter ça, tant mieux.
Ah ouais, je trouve que c'est une très bonne idée, d'ailleurs. Du coup, c'est quelque chose qui peut marcher. Il faudrait peut-être poser la question à un moment donné. À ceux qui ont lu le livre, on y reviendra. Alors, j'ai une question clin d'œil. Mm-hmm. L'endroit où les lycéens se retrouvent, qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles. Mm-hmm. Est-ce que c'est un hommage au long métrage d'animation du même nom de
Bien
Isao
sûr.
Takahata?
Oui, oui, hein, tout à fait.
Puisque, pour rappeler un petit peu, bah, ça raconte aussi l'histoire de Seita et de sa jeune sœur Setsuko, hein, qui se trouvent livrés à eux-mêmes, pas dans le même contexte, puisque c'est après la mort de leur mère suite à un bombardement. Mais en même temps, on y retrouve cette fusion entre le frère et la sœur.
Ouais, et alors c'est très marrant parce que, en fait, ça c'est typiquement des choses dont je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai fait. C'est ensuite que je me suis rendu compte qu'il y avait ce lien évident. Et c'est sorti un petit peu, voilà, ça c'est de l'inconscient qui sort, quoi. Et j'ai le même exemple avec La Gueule du Loup, où les copines se retrouvent dans un bar qui s'appelle La Nuit du Chasseur, qui est un de mes films préférés, qui raconte quand même une traque. Avec le pasteur, le fameux pasteur qui poursuit ses deux enfants dans la forêt, etc., toute une nuit. Et c'est quand même tout le roman, c'est ces deux jeunes filles, enfin trois au bout d'un moment, qui se retrouvent traquées par un homme à travers la forêt. Et au moment où je décide que le bar va s'appeler la Nuit du Chasseur, je ne me rends même pas compte du lien. Et après, je me dis,
c'est
mais oui, évidemment, quoi, évidemment. Et voilà, c'est un peu pareil pour Le Tombeau des Lucioles. Sur le coup, je n'ai même pas réalisé la double lecture qu'il pouvait y en avoir.
Bah on va faire une deuxième pause musicale. Avec
alors, quel choix cette fois-ci.
Une très jolie chanson que j'adore beaucoup, Soap and Skin, Spiracle.
Slacks I bored with a bark in their spiracle. When I was a child, peers pushed me hard in my head, in my neck, in my chest, in my waist, in my butt. I stood back. Please help me.
Soap and Skin, donc avec le titre Spiracle, qui est un choix de la bande-son proposée pour le bouquin Frangine de Marion Brunet. La couverture du roman, ben, elle est moche. Je suis désolé de le dire. Alors, qui a choisi cette couverture?
Alors, ceci dit, quand même, bon, moi je la trouve pas moche, mais en plus, il y a énormément, énormément d'ados qui l'ont adoré.
C'est vrai?
Ouais, c'est-à-dire que très sincèrement, j'ai rencontré quand même depuis, il est sorti en 2013 ce roman, donc je commence quand même à avoir rencontré beaucoup d'ados, et il y en a énormément, énormément qui m'ont dit que la couverture les avait tout de suite accrochés et qu'ils ont vraiment, vraiment aimé cette couve. Alors, par ailleurs, c'est pas moi qui l'ai choisi, puisque c'est pas mon boulot, en fait. Et le choix final de la couverture revient à l'éditeur.
D'accord.
Ce qui se tient, en fait, parce que nous, a priori, on n'est pas trop mauvais pour inventer des histoires, mais pour la com, tout ça. Et la vente, c'est bon, c'est pas notre boulot au départ. Donc, parfois, on a des idées très précises de ce qu'on aimerait bien, qu'on trouve très beau. Et puis, c'est pas forcément vendeur. Enfin, bon. Après, il y a des chartes graphiques en plus, de toute façon, hein, pour les collections. Okay. Donc, je pense que c'est des choix qui se décident en équipe, etc. On est quand même sollicité. C'est-à-dire que si on n'aime pas du tout.
Il y a plusieurs versions.
Oui. Moi, j'ai eu une première proposition que j'aimais pas. Eux-mêmes, ils n'étaient pas complètement convaincus. Ils m'ont dit, bon, bah, ok, on continue de chercher. Et quand ils m'ont proposé celle-ci, moi, j'ai tout de suite validé parce qu'elle me plaisait beaucoup. Je la trouvais très parlante par rapport au bouquin. Il y a vraiment un moment de complicité et de rire entre deux personnages, bon, qui peuvent être effectivement Joachim et Pauline. Et Alix, tout à l'heure, donc, tu disais un peu hors micro, ah ouais, mais quand même, pour une blonde, elle est un peu brune. Ouais. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Enfin, moi, je trouve qu'on s'en fout parce que l'idée, c'est pas forcément d'illustrer pile poil le propos ou les personnages à l'intérieur, mais de donner une impression générale de ce qu'on va trouver dans le roman. Et en ce sens, je trouve qu'elle est assez réussie.
D'accord.
Voilà, parce qu'elle dégage la complicité. Il y a un côté un petit peu solaire quand même avec le sépia, qui peut donner un aspect ancien, mais moi, ça me dérange pas trop, peut-être parce que je suis un peu ringarde des fois sur les bords. Et puis aussi parce que je trouve que du coup, c'est un peu intemporel.
Ah, moi, je trouve que ça fait très années 70.
Bah oui, c'est le côté sépia.
Ah.
On a tendance, quand on a une photo en couverture d'un bouquin, à imaginer que ceci, c'est le personnage. Et après, je sais pas si tout le monde fait ça, mais quand on lit, on visualise beaucoup, on se fait un film un peu dans sa tête. Et du coup, c'est peut-être pas important, effectivement, qu'elle soit pas blonde, mais mine de rien, quand il y avait des descriptions, du coup, dans le livre, il y avait un petit choc qui se crée visuellement dans la tête, parce que d'un coup, elle se transformait de brune à blonde, c'était...
Ah, mais elle peut se teindre les cheveux, hein, quand même.
En plein milieu du livre.
Bon, moi, ça m'a pas gêné du tout, hein, parce que les personnages sont quand même assez attachants et forts, donc du coup, j'ai pas pensé du tout à la couverture. Mais c'est juste, voilà, moi j'ai dit « Ouh là là !» J'imaginais une couverture un petit peu plus colorée, on va dire. Bon, c'est juste une question de goût. L'évocation, hein, de l'association APGL, hein, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, est-ce que vous avez travaillé avec eux ?
Alors, c'est tout simplement un partenariat.
C'est juste un partenariat,
ouais, qui a été proposé. Je ne sais pas qui a proposé. Est-ce que c'est l'APGL ou est-ce que c'est Sarbacane, en fait ? Mais c'est un partenariat qui fait que eux, intéressés par le contenu du roman, propose d'en acheter un certain nombre d'exemplaires au moment où le bouquin sort et apposent leurs griffes au dos du bouquin. Sachant que ça se fait pas mal dans la collection, entre autres avec Amnesty International aussi. Il y a eu plusieurs titres qui ont été parrainés comme ça. Enfin, c'est pas vraiment du parrainage, c'est une sorte de partenariat. La maison d'édition m'a, donc Sarbacane, ils m'ont demandé mon avis d'abord, en me disant est-ce que ça t'embête. Moi, ça m'embêtait pas. Le seul petit bémol qui pouvait m'inquiéter, c'est que je me disais, ah, est-ce que ça risque pas de limiter, c'est-à-dire que les gens qui se saisissent du livre en voyant ça se disent, oh, bah, ça ne me concerne pas, c'est-à-dire que ça ne concerne que les gens touchés par la question de l'homosexualité ou de l'homoparentalité, et j'aurais trouvé ça dommage si ça avait eu cet effet-là.
Et voilà. Vous êtes quand même rencontrés
Oui, on s'est rencontrés, mais on aurait pu ne pas, puisque ça s'est fait sans moi. Une fois que j'ai donné mon accord, après c'était entre Sarbacane et eux. J'ai été invitée juste avant la sortie du livre au deuxième salon de l'homoparentalité, du livre homoparental à Paris. Et du coup, à cette occasion-là, j'ai rencontré plusieurs personnes de l'équipe, ouais. En tout cas sur Paris.
Magenta ?
Pensez-vous que Frangine pourra faire changer les préjugés sur l'homoparentalité pour les lecteurs qui l'auraient lu
Figure-toi que oui, mais je ne le savais pas avant. Je ne savais pas que ça pouvait faire autant bouger les choses. Et depuis qu'il est sorti, je rencontre, donc, comme je te disais, beaucoup d'ados. Dans la plus grande majorité, les ados, en fait, sont super ouverts. Hein. Quand on les aborde d'une certaine façon, on se rend compte qu'il y a vraiment une grande ouverture d'esprit. Mais j'ai eu aussi des retours d'ados me disant, moi, avant de lire votre livre, j'étais plutôt contre que les homos aient des enfants. Et en fait, finalement, chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est assez... quand c'est on entend ça, c'est assez livre. Magique, quand même. Parce qu'on se dit, waouh. Voilà.
On parlait tout à l'heure d'inconscience par rapport au nom du bar, le tombeau des Lucioles. Et justement, par rapport à l'inconscience, est-ce que le style littéraire avec lequel vous avez écrit était inconscient ou est-ce qu'il était réfléchi pour donner l'impression qu'on est dans la tête du personnage et qu'il est en train de penser?
Ça, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a dans l'écriture, il y a à la fois un temps de comment dire, où ça sort un peu de façon... ouais, un peu magique, ça fait bizarre de dire ça, mais ça sort un peu tout seul, on ne sait pas trop d'où ça sort. Et puis après, cette matière brute, on la retravaille, bien sûr. Et tu as pu te rendre compte que, par exemple, il y a quand même plein de registres de langue différents. Dans ce roman, il y a des passages poétiques, il y a des passages, quand il y a des dialogues, évidemment, que je les ai travaillés pour qu'ils soient les plus réalistes possibles. Des moments de narration où on va plus être sur de l'accroche et de la tension narrative pour que le lecteur ait envie de suivre l'histoire et de tourner la page. Enfin, voilà, donc après, ça se retravaille, bien sûr.
C'est ça qui est intéressant. En général, dans le roman jeunesse, on pourrait reprocher justement que la forme ne s'adapte pas forcément au fond. Et là, pour le coup, à chaque scène, un style littéraire différent qui s'adapte vraiment au propos de la scène. Et j'ai trouvé que c'était très bien.
Ben, merci. Littérature jeunesse, je pense qu'il y a certaines collections qui amènent de plus en plus vraiment de la je vais dire avec des grosses guillemets, de la vraie littérature, quoi. J'ai un peu du mal, moi, avec cette espèce de clivage jeunesse-adulte, parce que je pense que de plus en plus, il y a des bijoux, il y a des pépites dans la littérature jeunesse, et d'ailleurs, lues par les adultes aussi. Donc j'ai un peu du mal avec cette frontière-là. Voilà.
Alors, puisqu'on est dans le style littéraire, alors encore une fois, une question où, si je me trompe, vous avez trop de
dire. Je te tape.
Ouais, c'est possible, ouais, pourquoi pas. Il paraît que l'un de vos auteurs préférés, c'est Guy de Maupassant.
Ouais, carrément.
Alors voilà, il faut nous parler un peu de votre passion pour Guy de
Maupassant. C'est une grande histoire d'amour pour moi, Maupassant. Je l'ai découvert, je crois que c'était vers mes 12-13 ans, avec des nouvelles Douce Amère. Voilà, je crois que ça s'appelait Nouvelles Douce Amère. Et puis après j'ai enchaîné. Je crois que je les ai tous lus. Je pense que c'est un immense conteur,
ouais.
Et en même temps qui porte un regard, une critique sociale extraordinaire et complètement avant-gardiste et qui est toujours moderne. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que, enfin, moi, il y a des nouvelles que je relis aujourd'hui que je trouve presque autant révolutionnaires qu'à l'époque, quoi. C'est et en plus de ça, il a un style merveilleux. Enfin,
Quel message voulez-vous que le lecteur retienne de Frangine ? L'homoparentalité ou le harcèlement au lycée ?
J'ai un peu du mal avec cette idée des messages, en fait, j'avoue. Parce que quand j'écris une histoire, je ne l'écris pas en me disant « Tiens, je vais faire passer un message. » Je raconte une histoire et évidemment que je fais passer des choses puisque je suis la somme de plein de réflexions et de pensées et de... et tout et tout. et du coup, forcément, je vais faire passer des choses, mais voilà, j'ai pas forcément envie que ce soit comme un slogan, tu vois. Si slogan il y a, c'est de se poser des questions, quoi, et de pas rester sur des idées préconçues, ne pas être bloqué. Peut-être une chose, si, peut-être qu'il y a au fond quand même l'idée de dire une situation douloureuse, elle est pas à vie et on peut s'en tirer, on peut s'en sortir, quelle que soit la façon. Ouais, si message il y a, ce serait peut-être celui-là.
Dernière question, les projets. Il y a un autre livre en préparation.
Oui, il y a un autre livre en plus que préparation là, qui sort en janvier 2016, que je suis en train de retravailler, donc qui est fini, mais en phase de retravail. Ça peut être long, parce qu'avec Thibaut Bérard, qui est quand même un grand malade de la correction, et je le remercie pour ça, parce que c'est ce qui fait qui nous fait... qui nous sort le meilleur, quoi. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est quand même vraiment les finitions. Et il va s'appeler Dans le désordre.
Dans le désordre. Alors, ouais. Donc on peut évoquer juste un peu le sujet pour.
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une histoire d'amour et d'amitié en milieu anarch, militant, squat. Ah. Voilà.
D'accord. Bah, très bien. Bah, on est prévenu. Merci beaucoup Marion Brunet d'être venue sur ce plateau. Merci Alix Laguêpe. Et merci Magenta La Libellule, dont c'était la première sur le plateau du Salon du Livre. Et puis on va se quitter encore en musique avec Bachung.
Il m'a fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche pour retrouver le vrai, faire table rase du passé, la discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore moi. Les pluies acides déchantent les sapins, j'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin, je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi.
Marion Brunet, lauréate du prix Ado en colère pour son livre Frangine, paru aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, était notre invitée sur le studio mobile de Radio PFM vendredi 1er mai, lors de la 14e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, organisé par l'association Colère du Présent. Info 30, c'est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec votre magazine d'info locale pour la suite de notre rétrospective spéciale Salon du Livre, dès demain, 7h30, 12h30 et 18h.